Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous, j'ai une question pour vous. Faites-vous des choix au moment de faire les courses? Beaucoup d'entre vous y sont contraints face aux 13,2% d'inflation percutant l'alimentaire. De quoi vous privez-vous? Qu'achetez-vous en priorité? Et que pensez-vous de ces paniers anti-inflation lancés dans de plus en plus de grandes surfaces? Appelez-nous au 3921, nous en parlons dès 19h30. Ce sera après le grand journal du soir sur Europe 1. Il vous est présenté par Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. C'était la pire des issues imaginables après la disparition de Siem, 18 ans dans le Gard. Le suspect en garde à vue a avoué l'avoir tué, un homme de son entourage familial déjà condamné à de nombreuses reprises. Les détails dans un instant. Elisabeth Borne ce soir sur France 2 pour défendre une réforme des retraites très impopulaire. Elle est envoyée en première ligne par Emmanuel Macron. Dans ce journal, la démonstration de force de Vladimir Poutine à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Stalingrad, la mort de Philippe Tesson, la retraite internationale à 29 ans pour Raphaël Varane. Et puis, c'est la Chandeleur. Un spécialiste vous dira comment réussir la crêpe idéale.
Après 19h40, nous parlons de notre rapport au travail. A-t-il changé ou tout simplement évolué? Pour l'Institut Montaigne, il n'y a pas de rupture. Les Français, dans leur immense majorité, 77%, sont attachés à leur boulot. Même s'il y a effectivement des évolutions à noter, nous en parlerons avec Franck Morel de l'Institut Montaigne. Justement, venez discuter avec nous. Appelez-nous au 3921. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël.
La tendance météo avec vous.
Alors, même type de temps que ces derniers jours. On va conserver des conditions anticycloniques demain, à la différence que le soleil au sud s'imposera plus qu'aujourd'hui. Et on fait un point complet à la fin du journal.
A tout à l'heure, Marlène. Elle s'appelait Siem, elle n'avait que 18 ans. Le corps sans vie de cette lycéenne a été retrouvé ce matin.
Oui, dans un bois tout près de la Grand Combe, près d'Alès dans le Gard où elle habitait. L'homme qui était en garde à vue est passé aux aveux. Stéphane Burgade, vous êtes sur place.
Oui, effectivement, il passe aux aveux après avoir initialement nié tout contact avec Siem ce soir-là. Il craque en fait au moment d'aborder sa toute dernière nuit de garde à vue et il indique alors à ce moment-là où se trouve le corps de la jeune femme. Dans cette zone finalement très proche du lieu de sa disparition, nous explique Cécile Jansac, écoutez la procureure de Nîmes.
Le corps de la jeune Siem a été retrouvé cette nuit aux alentours de 1h du matin dans un chemin de campagne près de la Grand Combe. L'endroit était relativement isolé. Le gardé à vue, lien de famille éloigné de la victime, indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des faits en toute intimité.
Siem, qui est décrite comme une jeune lycéenne discrète, sérieuse, était très appréciée ici. On le ressent dans ces villages au pied des Cévennes où les habitants comme Soani témoignent d'un profond sentiment de révolte ce soir.
Ben, ça fait que c'est une honte qu'une petite de 18 ans, qu'on lui a fait ça, quoi. C'est bien triste, hein. On est malheureux, ça peut arriver à nos enfants de nos jours, enfin, on a l'abri de rien. Même si c'est une dispute, il n'avait pas à faire ça, c'est inadmissible, c'est pas pardonnable ça. Il faut que justice elle soit faite pour cette personne en fait.
Et que sait-on du profil du suspect, Stéphane ?
Eh bien écoutez, c'est un multi-récidiviste âgé de 39 ans. Son casier judiciaire fait état de 13 condamnations, dont une lourde peine, 12 ans pour vol à main armée. Il était également attendu cette semaine devant les assises du Gard pour vol avec violence et séquestration. Procès bien évidemment à journée. Et les villageois, comme les proches de Siem, continuent de s'interroger pourquoi cet homme était en liberté. Eh bien, parce que toutes ses peines avaient été purgées. Nous répond ce soir son avocat Jean-Marc Darrigade.
Il avait exécuté toutes ses peines. Il allait certes être jugé pour un nouveau fait, mais en fait, en réalité, c'était un fait qui était très ancien, qui avait 11 ans d'âge. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'au bout de 11 ans, quelqu'un sorte de prison. On ne peut pas rester en détention provisoire pendant 11 ans. C'était normal qu'il soit en liberté.
Voilà, quoi qu'il en soit, un nouveau temps judiciaire commence pour confronter déjà les déclarations du principal suspect et une forte attente, notamment autour des résultats de l'autopsie la semaine prochaine.
Stéphane Burgat, vous le disiez, cet homme de 39 ans, multi-condamné, a parlé de relations amoureuses avec la jeune lycéenne. Une affirmation que dément l'avocat de la famille, Maître Batic.
Personne n'avait connaissance de cette relation hypothétique. Siem n'est plus là pour la confirmer et pour l'instant... Ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Elle voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère. Il y a un grand écart d'âge entre les deux. Et la relation qui faisait le lien entre Siem et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine, qui est donc l'ex-femme de cet individu.
L'avocat de la famille de Siem au micro Europe 1 de Thibault Hue.
Et nous tenterons de comprendre un peu mieux le profil de cet homme de 39 ans qui a avoué avoir tué Siem, 18 ans, avec le psychologue et criminologue, le docteur Jean-Pierre Bouchard. Il sera notre invité aux alentours de 19h20.
Et puis inquiétude sur le sort d'une élève infirmière de 21 ans portée disparue à Brest depuis sa sortie de boîte de nuit dimanche matin. L'enquête est en cours.
La politique, avec une intervention attendue ce soir sur France 2, celle de la première ministre Elisabeth Borne.
Oui, après une deuxième journée de mobilisation massive contre la réforme des retraites et avant de nouvelles journées programmées la semaine prochaine, la première ministre va devoir continuer son travail d'explication, Jacques Serret, parce que c'est bien sur elle que repose cette réforme.
Elisabeth Borne qui monte au front, une stratégie assumée du côté de l'Élysée. Ce n'est pas le moment pour Emmanuel Macron de s'exprimer, décrypte un stratège du palais. C'est un temps gouvernemental, un temps législatif, une manière de justifier le fait que le chef de l'État reste en retrait. Surtout, au fond, cela donne à Elisabeth Borne le rôle de paratonnerre. Il lui revient également le rôle de remobiliser le camp macroniste. C'est elle, la chef de la majorité. Une majorité qui aujourd'hui a besoin d'être rassurée, remobilisée, alors que les voix dissonantes au sein des soutiens d'Emmanuel Macron commencent à faire de plus en plus de bruit. Alors lâchera-t-elle du lest ce soir, 4 jours avant le début des débats dans l'hémicycle lundi? Plusieurs pistes tiennent la corde, comme une clause de revoyure en 2027 ou un geste sur les trimestres de maternité pour les salariés du public. Aujourd'hui, dans le public, un enfant donne droit à 4 trimestres quand une salariée du privé en obtient 8, ce qui ne devrait toutefois pas calmer la grogne des syndicats qui se mobiliseront de nouveau mardi.
Jacques Serret, Édouard Philippe, président du Parti Horizon, soutient ce soir sans ambiguïté la réforme. Sur les 29 députés de son parti, 6 sont opposés à cette réforme qui arrive d'ailleurs lundi à l'Assemblée avec un menu bien dense, quelques 20 000 amendements à examiner en 20 jours.
Pendant ce temps-là, la Russie célèbre en grande pompe le 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad.
Oui, tournant de la Deuxième Guerre mondiale et symbole du patriotisme, un événement clairement utilisé par Vladimir Poutine pour galvaniser son peuple en pleine guerre en Ukraine, Caroline Baudry.
Oui, ces célébrations très médiatisées en Russie se sont déroulées dans la ville de Volgograd, rebaptisée Stalingrad pour l'occasion. Les soldats, dont certains en tenue soviétique et les chars, ont défilé le long de l'allée des héros avant que le président russe ne réitère ses menaces contre les Occidentaux. Il a dressé un parallèle entre l'invasion de l'Ukraine et la guerre contre Hitler.
C'est incroyable, mais c'est un fait. Nous sommes à nouveau menacés par des chars léopards allemands avec des croix sur leur côté. De nouveau, les pays occidentaux se préparent à combattre la Russie en Ukraine avec les mains de petits partisans méprisables d'Hitler. Ceux qui espèrent vaincre la Russie sur le champ de bataille ne semblent pas comprendre qu'une guerre moderne avec la Russie serait très différente de la Seconde Guerre mondiale.
Nous avons de quoi répondre et ça ne se limitera pas aux blindés, a-t-il ajouté comme une allusion à l'arme nucléaire. Pierre de Gaulle, le petit-fils de Charles de Gaulle, bien connu pour ses positions pro-russes, s'est recueilli aujourd'hui sur le mémorial de la ville, provoquant un malaise du côté de sa famille en France. Près d'un an après l'invasion, la Russie réveille la mémoire de la lutte contre le nazisme. La soi-disant dénazification de l'Ukraine est l'un des derniers arguments agités par le Kremlin pour justifier l'envoi des soldats au front.
Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est en ce moment à Kiev, annonce que l'Union prévoit de nouvelles sanctions contre la Russie à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Ce sera le 24 février prochain. Et puis on apprend ce soir que le Brésil va couler l'ancien porte-avions Foch, fleuron de la marine française pendant 37 ans. Il est passé sous pavillon brésilien en 2000 et s'appelle depuis le Sao Paulo. Après le refus de la Turquie de le détruire dans l'un de ses ports à cause des risques de pollution, il va donc finir au fond de l'Atlantique.
Son visage, sa voix, mais surtout sa plume étaient bien connus des Français. Le journaliste Philippe Tesson est mort aujourd'hui.
Il avait 94 ans. C'était un touche-à-tout, patron de presse, entrepreneur, polémiste, mais aussi homme de théâtre. Il dirigeait encore le théâtre de poche Montparnasse. Mais il refusait de se dire écrivain.
Je n'ai pas la prétention d'être écrivain. Tout le monde se dit écrivain aujourd'hui, n'importe qui écrit un livre. C'est bien d'ailleurs. Enfin, que, c'est pas pour ça qu'il est un écrivain. On va pas s'emmerder, on va pas pinailler pendant une heure sur le problème sémantique.
Est-ce qu'au fond, c'est que vous avez peur de ne pas écrire un chef-d'œuvre ?
Peut-être, inconsciemment, c'est peut-être ça. Non, ou alors c'est parce que j'ai pas peur, je suis lucide et je sais que j'écrirai jamais les mémoires d'outre-tombe.
Voilà la voix de Philippe Tesson il y a 5 ans sur Europe 1 au micro de Nicolas Carreau. L'un de ses amis, Guillaume Durand, rend hommage à cette force de la nature.
La mort de Philippe me consterne totalement. C'était lui le fragile Philippe, élégant, apparemment mondain, mais fondamentalement courageux. Il y avait un côté funambulesque aussi. Moi, je me souviens qu'à la radio, il arrivait à la dernière minute et il démarrait au quart de tour. Il avait déjà largement plus de 85 ans. Donc, une forme incroyable pour un type qui sortait le soir, qui allait à son théâtre, qui allait à des représentations. Non, ça a été une force de la nature. Et bah, je vais beaucoup le pleurer parce que j'ai beaucoup vécu avec lui à l'aube, comme ça, tous les matins à la radio. Et on s'est vraiment follement amusé. C'est effondrant de savoir qu'il n'est plus là.
Guillaume Durand avec Inès Zegloul.
C'est un régime spécial de grands sportifs annoncé sa retraite à 29 ans.
Eh oui, le footballeur Raphaël Varane, défenseur des Bleus, prend sa retraite internationale et ne jouera donc plus en équipe de France après Hugo Lloris, Steve Mandanda et Karim Benzema. Une nouvelle figure centrale des 10 dernières années des Bleus tire donc sa révérence, Colin Abgral. Qu'est-ce qu'on retiendra de la carrière de Varane en équipe de France ?
Eh bien, surtout qu'il était l'incarnation du renouveau amené par Didier Deschamps, appelé dans la première liste du sélectionneur le 9 août 2012, sa première sélection en mars 2013 à seulement 19 ans, et ce statut de grand espoir du football français, statut assumé, il devient rapidement vice-capitaine derrière Hugo Lloris et se mue, quand il le faut, en meneur d'hommes dans le vestiaire. Ça, c'est un discours prononcé lors de la finale victorieuse de la Coupe du Monde 2018, son plus grand moment de sa carrière en bleu. Elle s'arrête aujourd'hui. Pourquoi ? Il souhaite consacrer plus de temps à sa famille. Mais il y a aussi une usure mentale qu'il évoquait déjà lors d'un entretien accordé à Europe 1 avant la Coupe du Monde au Qatar.
Oui, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, beaucoup de choses autour d'une carrière. C'est beaucoup plus compliqué que simplement taper dans un ballon.
Et son sélectionneur de toujours, Didier Deschamps, a salué, je cite, « un des garants du collectif et de ses valeurs, son honnêteté et son engagement sans faille pour le maillot bleu. Après 93 sélections, le champion du monde dit stop, mais restera comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de l'équipe de France. »
Et puis Colin, cette mauvaise nouvelle pour le PSG, l'attaquant star Kylian Mbappé est indisponible pour 3 semaines à cause d'une blessure à la cuisse. Il ne pourra donc pas jouer les 8e de finale aller de la Ligue des Champions sur le terrain du Bayern Munich. Il manquera aussi le 8e de finale de la Coupe de France mercredi à Marseille.
19h12, c'est bientôt l'heure du dîner. En ce jour de Chandeleur, peut-être y a-t-il des crêpes au menu.
Mais attention, il y a crêpes et crêpes. Ouais. Le mieux, c'est de prendre conseil auprès d'un spécialiste. C'est ce que vous avez fait pour nous, Alexandra Gégy.
Oui, Hélène. Alors, je me trouve avec Lucas dans la cuisine de sa crêperie traditionnelle. Bonsoir, Lucas.
Bonsoir.
Alors Lucas, quel est le secret d'une bonne pâte à crêpes ?
Déjà une bonne farine, on y rajoute également des œufs frais, du lait demi-écrémé, du sucre. Et bien entendu, le beurre salé chez des vrais Bretons que nous sommes, vous en trouverez. Il faut utiliser le plus possible les ustensiles d'origine, à savoir un rosel. Et vous me demanderez tous qu'est-ce qu'un rosel ? C'est un petit bout de bois taillé sur mesure qui permet de répartir convenablement, que ce soit la pâte à crêpes ou la pâte à galette sur le bilig. Et dans un second temps, bien entendu, qu'est-ce qu'un bilig ? Ça vient de nos ancêtres bretons. Et donc, c'est ce qui permet de chauffer au fur et à mesure la pâte.
Super, alors on peut en faire une ?
Allons-y immédiatement, je vous montre. On met une bonne louche qu'on dépose sur le bilig. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre quelques secondes que ça cuise.
Elle m'a l'air prête. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de mettre dessus ?
Ah, sans aucune hésitation pour moi, le caramel beurre salé.
Mais merci beaucoup. Bon appétit alors.
Et bonne chandeleur à toutes et à tous.
Hélène, promis, je vous en ramène.
Bah, je compte sur vous. Merci Alexandra, c'est réussi. Vous m'avez ouvert l'appétit. Et je vous rappelle ce proverbe, qui mange des crêpes quand la chandeleur est arrivée est sûr d'avoir argent pendant l'année. Ça va justement rapporter de la galette. Le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réussit le meilleur démarrage pour un film français depuis 15 ans. En dépit de mauvaises critiques, ce film de et avec Guillaume Canet a déjà rassemblé plus de 460 000 spectateurs. Place maintenant au marché financier avec notre falbala à nous, Claire Lemaître de boursier.com. Claire, Paris est très en forme ce soir.
Oui, très belle séance, plus 1,26% pour le CAC 40. On est à 7 166 points. Ce sont les banques centrales qui ont donné le ton. La BCE a porté ses taux à leur plus haut niveau depuis 2008 aujourd'hui. Une hausse d'un demi-point comme prévu. Hier soir, c'était la Fed aux États-Unis avec une hausse d'un quart de point. Alors les marchés espèrent que ces banques centrales vont maintenant lever le pied et ça nous donne de fortes hausses en Europe. Francfort bondit de plus de 2%, plus 0,8% pour Londres, plus 1,5% pour Madrid et donc plus 1,3% pour le CAC 40 à Paris.
Merci Claire Lemaître.
Merci Hélène Zélani. À tout à l'heure, 20h pour un nouveau journal. On passe à la météo avec Marlène Duret. Marlène, on commence par le sud où il y a du soleil.
Oui, le soleil va rester généreux en plaine comme en montagne, dans le détail des Alpes à la Provence et à la Corse, en poursuivant vers la basse vallée du Rhône et le pourtour du golfe du Lion, autrement dit entre Marseille et le Roussillonnais, sans oublier le piémont pyrénéen. Puis au fil des heures, ce temps ensoleillé va gagner vers le sud de l'Auvergne, du Limousin, des Charentes. L'ensemble de l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine profiteront également du beau temps.
Et le reste du pays reste sous les nuages.
Et oui, la grisaille va dominer une bonne partie de la journée. Et oui, hein, conditions anticycloniques, humidité bloquée dans les basses couches. Voilà, un grand classique. Quelques éclaircies pourront peut-être percer quand même dans l'après-midi, sauf sur le quart nord-est. On est influencé par la météo en Allemagne. Ciel couvert, petite pluie possible entre les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, peut-être même la partie nord de la Franche-Comté. Quelques flocons aussi sur les Vosges à partir de 900 mètres d'altitude.
Les températures aux premières heures du jour entre moins 2 et 4 dans le sud.
Oui, dans le sud parce que là le ciel sera dégagé, donc les températures baissent. Hein, logique. Sur la moitié nord, en revanche, sous les nuages, elles seront plus élevées avec 4 à 8 degrés demain matin. Les maximales seront comprises entre 8 et 12 degrés en général. Ambiance quasi printanière sur le littoral méditerranéen et en Corse avec 14 à 18 degrés. Et puis peut-être un petit mot du côté de la Pennsylvanie sur le continent nord-américain.
Ah,
la marmotte a vu son ombre et est donc effrayée. Elle est retourner dans son terrier, ce qui veut dire qu'on en a encore pour 6 semaines supplémentaires d'hiver en Pennsylvanie.
Merci beaucoup pour ces dernières infos de la marmotte. On en a encore pour 6 semaines. Ça nous rappelle ce film
un jour
merveilleux.
Sans fin, qui a 30 ans cette année. 30 ans bah, avec Bill Murray en présentateur météo.
Météo, info, voici Marlène Duret. Vous la retrouvez tout à l'heure à 23h pour un nouveau point météo. Ce sera bien évidemment sur Europe 1. Restez avec nous. Je vous rappelle le numéro du standard, le 3921. Venez discuter avec nous, notamment des prix de l'alimentaire frappés par l'inflation, 13,2% sur un an. On en parlera avec la présidente de Famille Rurale après 19h30 et puis après 19h40. Une autre discussion, cette fois sur le rapport des Français au travail. C'est un débat sous-jacent, hein, en pleine discussion sur la réforme des retraites. Nous en parlerons avec Franck Morel de l'Institut Montaigne. A tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Cette nouvelle affaire sordide dans l'actualité, nous l'avons vu dans le journal d'Hélène Zélani, la mort de la jeune CM, 18 ans dans le Gard. Son corps a été retrouvé la nuit dernière après une semaine sans nouvelles. C'est le suspect mis en examen, Marfoud H, qui a avoué l'avoir tué et indiqué où se trouvait le corps. Nous en parlons avec le docteur Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Bonsoir docteur.
Oui, bonsoir.
Alors, rappelons les quelques éléments en notre possession. Le suspect est âgé de 39 ans. Il dit donc avoir tué Siem lors d'une dispute. Il dit aussi avoir entretenu une relation amoureuse avec elle. Alors, il était en couple avec la cousine de la victime. Siem gardait les enfants assez régulièrement. On sait aussi que ce suspect de 39 ans, Marfoud H, était multirécidiviste, condamné 13 fois, notamment à 12 ans de réclusion criminelle en 2012 pour des faits de vol avec arme. On a quelqu'un d'assez peu sensible qui, comme le dit la procureure de Nîmes, a du mal à intérioriser l'autorité, la loi.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, vu son casier judiciaire. C'est surtout quelqu'un qui a fait des déclarations qui devront être investiguées et vérifiées, puisqu'il dit que, en fait, il s'agit d'une rencontre intime qui aurait mal tourné. Tout ça, c'est déclaratif, évidemment. Encore faut-il vérifier maintenant pour les enquêteurs et le magistrat instructeur que cette relation est bien réelle, qu'il ne s'agit pas d'un argument de défense. Il parle aussi de faits involontaires, évidemment. Ça aussi, c'est un argument de défense que l'on retrouve assez classique. Peut-être est-ce le cas, mais peut-être ne l'est-ce pas, puisque vous savez que si les choses sont volontaires, évidemment, c'est plus aggravant pour la personne concernée qui aurait commis les faits criminels. Donc, tout ça est à prendre pour l'instant avec des pincettes. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les enquêteurs ont obtenu des premiers aveux. Et qu'il les a conduits à la découverte de la victime.
Alors, ça a mis un certain temps tout de même. Hein. On a l'impression d'avoir un homme qui a une relation particulière avec la vérité. Hein.
Évidemment.
La culpabilité également. Enfin, là où je veux en venir, docteur Bouchard, c'est est-ce qu'on a quelqu'un d'insensible ?
Alors, si vous voulez, pour l'instant, c'est difficile puisqu'on le connaît très peu encore. Mais vu son passé, on a quelqu'un qui a un profil qui pourrait être antisocial. Et ses personnalités antisociales, si tel était le cas, si c'est confirmé, évidemment, sont des gens qui sont très égocentriques, qui effectivement n'ont pas beaucoup d'empathie pour les autres et pensent avant tout à eux-mêmes, à leur plaisir, à ce qui les arrange. Et dans les procédures judiciaires, ce sont évidemment des gens qui s'arrangent à leur avantage avec la vérité. Alors, je ne calque pas exactement cette affaire-là, puisqu'encore on n'en sait pas assez, mais c'est quelque chose, ce sont des profils assez classiques, hélas. D'autre part, compte
tenu... Est-ce qu'on parle de psychopathe?
Oui, voilà, si c'était confirmé, c'est ça. Le terme de psychopathie, en fait, on ne devrait plus l'employer parce que, vous voyez, ça, l'étymologie du mot, ça veut dire pathos, la pathologie psycho-mentale. Et en fait, justement, ce ne sont pas les malades mentaux, les psychopathes, ce qu'on appelait autrefois les psychopathes. C'est pour ça que maintenant, on préfère parler mondialement de personnalités, donc antisociales, car ils provoquent régulièrement des problèmes comme ça, et ce sont des infracteurs assez réguliers. Et justement, puisqu'il a un casier judiciaire assez fourni, il a une culture, une habitude de l'enquête, des interrogatoires, et il est bien évident que c'est quelqu'un qui n'est pas à ses premières interrogations judiciaires et qui est apte à moduler la vérité en sa faveur. Alors, en sachant que les gens qui mentent, en général... surtout là, hein, c'est le seul vivant et témoin des faits puisque la victime est morte. Donc il le fait ou il ne le fait pas, ou il le fera ou il ne le fera pas. Donc moduler la vérité en sa faveur et tout ça va être vérifié assez rapidement parce que là les choses sont assez simples maintenant. Les enquêteurs vont devoir affiner le mobile, les motivations. Pourquoi l'a-t-il fait? Les résultats de l'autopsie du corps de la victime seront intéressants aussi puisqu'ils vont déterminer quelles sont les causes de la mort. Est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels, par exemple, des rapports sexuels qui ont laissé des traces de forçage ou de violence? Ce sera intéressant. Et puis, il y aura tous les témoignages humains, toutes les personnes qui connaissaient donc la victime comme l'auteur des faits, qui vont se prononcer et sur la réalité de cette relation ou pas. Et qui vont amener petit à petit plein d'informations qui vont amener un visage beaucoup plus complet de cette affaire par rapport à ce qu'on en connaît aujourd'hui.
Alors vous parlez d'un suspect qui pourrait avoir le profil d'un sociopathe, hein, d'un homme qui, vous l'avez dit, docteur Bouchard, arrangerait la vérité en sa faveur. C'est un peu ce qu'il fait lorsqu'il avoue aux enquêteurs avoir tué Siem pour, dit-il, avoir voulu soulager sa conscience.
Je ne sais pas, à vérifier. Ouais. Moi, j'ai l'habitude, j'en ai vu énormément, des centaines et des centaines. Donc, je suis très calme par rapport à tout ça. Tout ça doit être vérifié par des éléments très concrets. Je ne sais pas si c'est ça, ou si de son point de vue, il sait qu'il y a des traces qui vont être découvertes et qui vont ramener l'affaire sur lui. Là aussi, ce sont les scénarios que l'on voit fréquemment. Et finalement, ils savent qu'il vaut mieux... dire certaines choses rapidement plutôt qu'être découvert plus tardivement, mais de façon certaine, parce que ce sera mauvais au niveau des assises, au niveau du jugement, par exemple. Donc, tout ça, c'est à vérifier. Hein. C'est purement déclaratif pour l'instant. Donc, tout ça sera vérifié et la vérité, s'affinera. Ce qu'on sait des personnalités antisociales, c'est que justement, là c'est pareil, je ne colle pas à lui ni à l'affaire, hein, mais justement ils ont très peu de remords, très peu de culpabilité. C'est pas des champions de la règle et du respect de l'autre, donc oui, ce sont pas des gens qui culpabilisent énormément et qui ont d'énormes problèmes de conscience, hein, souvent. Alors, mais encore une fois, peut-être est-on dans l'exception, je ne sais pas, donc tout ça va être vérifié.
Alors je voulais finir avec une question plus générale, docteur Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue, vous connaissez bien, hein, ces profils. On a le sentiment qu'ils sont de moins en moins rares. Est-ce que ça n'est qu'un sentiment ou est-ce que c'est une réalité ?
Alors, si vous voulez, d'abord, on les compte pas, on les a jamais comptés, donc on ne sait pas trop, mais moi j'ai la même impression que vous, qu'il y a une espèce de massification, de multiplication de ces profils antisociaux et qui transgressent récemment et qui passent à l'acte de plus en plus jeunes, notamment contre les biens, contre les personnes aussi. Alors contre les biens, c'est tous les vols aggravés, etc. D'ailleurs, ils devaient être jugés ces jours-ci pour ça. Donc ce sont des profils, effectivement, qui sont assez nombreux, ce qui est assez inquiétant parce qu'on sait aussi que ce sont des gens qui sont très aptes à récidiver. Et qu'en plus, quand on connaît quelquefois un certain nombre d'infractions qu'ils ont commises, il y a aussi beaucoup d'autres infractions qui ne sont pas connues, et donc il y a un chiffre noir, ce qui fait que les profils donc antisociaux, on va dire au sens large du terme, font beaucoup de ravages humains et beaucoup de ravages économiques, parce que tout ça, évidemment, coûte très cher pour les victimes, pour la collectivité, pour les contribuables qui doivent rembourser, payer les frais de procédure, etc., etc., car tout ça a un coût économique aussi extrêmement clair. Donc, moi, j'ai votre impression que tout ça s'aggrave ou se multiplie. Mmh. Il y a beaucoup de gens qu'on pourrait cataloguer d'antisociaux.
Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue. Merci d'être venu nous éclairer sur cette affaire CIEM ce soir sur Europe 1. Restez avec nous dans quelques instants. Vous avez la parole au standard d'Europe 1, le 39-21. Nous allons parler de l'inflation, en particulier dans l'alimentaire, 13,2% sur un an. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Le standard d'Europe 1 est ouvert, le 39-21, pour intervenir à l'antenne, réagir à nos différentes discussions. La suivante, c'est l'inflation. L'inflation pour les seuls produits alimentaires qui atteint 13,2% sur un an ce mois-ci. Les Français font des choix dans les rayons désormais. C'est ce que nous dit l'Institut IRI. Les volumes de vente ont baissé de près de 5% sur un an. Moins de produits frais, moins de viande et de poisson dans les caddies. Venez nous raconter vos pleins de courses sur l'antenne. Je vous rappelle le numéro, le 39-21. Nous en parlons avec Guylaine Brohan, présidente de l'association Famille Rurale. Bonsoir madame.
Oui, bonsoir.
Alors j'aimerais d'abord vous interroger sur ces initiatives des grands distributeurs. Sans attendre le gouvernement, ils lancent les uns après les autres leur panier anti-inflation. 150 produits dits à prix coûtant chez Système U, 50 produits sans marque chez Lidl à partir du 1er mars. Vous y voyez une utilité pour les consommateurs ?
Alors, c'est vrai que toute initiative qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est bon, c'est bien. Mais en fait, ce panier ne paraît pas être pour nous la solution. Parce que quels produits seront dans ce panier ? Vous l'avez dit, les consommateurs achètent de moins en moins de viande, de produits frais, de légumes. Et en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est penser à la santé des consommateurs. Alors effectivement, il y a le coût, mais il y a aussi la santé. Et ces paniers, si ce sont des produits transformés, si ce sont des produits trop gras, trop salés, ça ne va pas aller pour la santé. Donc, il faut vraiment penser à la santé des consommateurs et surtout échanger, discuter avec ces grands distributeurs pour être en accord avec eux en disant « vous allez mettre tel produit et non pas celui-là ». Voilà, il faudrait discuter avec eux.
D'après
voilà.
L'Institut IRI, les Français semblent faire l'impasse sur la qualité dont vous parliez, ouais. Guylaine Brohan. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est se nourrir, hein, si on comprend bien. Ils se jettent notamment sur l'épicerie.
Oui, sur l'épicerie. Et puis surtout, très souvent, des produits, des produits gras, des produits salés, c'est ce que je disais. Et puis, on voit des conséquences énormes. On sait que la Direction générale du Trésor, elle nous dit que les coûts pour la sécurité sociale, pour l'obésité, c'est 20 milliards d'euros par an. Et là, avec justement des consommateurs qui maintenant se jettent sur les produits les plus bas, les moins chers, ça va être inquiétant, quoi. Ça va être inquiétant. Il va falloir vraiment qu'on retravaille après sur la bonne santé des consommateurs. Et c'est maintenant qu'il faudrait essayer d'associer effectivement un prix bas, mais un prix sain, un produit sain.
Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que les pouvoirs publics doivent intervenir? Olivia Grégoire, ministre du Commerce, l'a confirmé sur Europe 1 mardi. Le gouvernement planche à imposer un panier de 50 produits similaires dans toutes les grandes surfaces. Il va falloir quoi? Le juste prix et la juste qualité, si vous me permettez l'expression.
Voilà. C'est ça, juste prix, juste qualité.
Sur le gouvernement,
Ben oui, il faut qu'il travaille, mais avec les associations de consommateurs. En fait, c'est simple, il y a 42 produits, la PNNS propose 48 produits sains. Eh bien, il faut au moins que ces 42 produits soient dans le panier, quoi. C'est la première des choses, et non pas les produits. Et puis, ce qui nous inquiète un peu, c'est qu'en 2011, Frédéric Lefebvre avait déjà mis en place un panier des essentiels. Alors, il y avait un certain nombre de produits, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'était impossible de retrouver dans le magasin les produits qui étaient le plus bas. Donc, ça n'a pas marché parce qu'ils étaient carrément disséminés dans tout le magasin. Donc, il y a ça aussi. Il y aura le panier. Comment concrètement ça va être visible pour les consommateurs?
Ah ben voilà, il ne faut pas que ce soit disséminé dans tout le magasin, sinon on ne les trouve pas et on ne les achète pas, effectivement. Alors, voilà. Nous sommes avec vous, Guylaine Brouhan, présidente de l'association Famille Rurale. Les consommateurs, les Français nous appellent également au standard d'Europe 1, le 39-21. Bonsoir Kérima.
Bonsoir.
Alors, racontez-nous, comment vous faites les courses en ce mois de janvier?
On va dire que on aurait aimé que ce soit mieux. Donc, on comprend qu'il y a une crise actuellement en France et que les prix ont doublé. Mais là, c'est pire que doublé. C'est voire quadruplé dans certains magasins. Mmh. On essaye de faire au mieux. On essaye de prendre quand même des produits de qualité. Mais bon, voilà, pour les gens qui ont les moyens, je pense que c'est un peu plus facile que pour d'autres. Mais voilà, actuellement, dans les grandes surfaces, il y a des produits qui ont quadruplé et des choses pour lesquelles on faisait pas attention, je me mets à regarder.
Il y a des produits que vous n'achetez plus, par exemple, Kérima?
Mais écoutez, oui, je fais attention à certains produits. Ou alors, une petite chose toute bête, il y avait une certaine vinaigrette d'une grande marque que j'achetais. Le prix a quadruplé, je suis obligée de regarder si je ne le trouve pas dans une marque un peu moins chère ou une marque de magasin. Donc, chose que je ne faisais pas avant.
Et vous attendez peut-être quelque chose de ce panier anti-inflation sur lequel planche le gouvernement
Alors moi, je vous dis sincèrement, je n'y crois pas trop. Parce que même si un panier anti-inflation, alors après, c'est ce que disait l'ADEME, il faut voir aussi quels sont les produits qu'on va proposer et la qualité de ces produits-là. Si c'est pour prendre des produits qui sont bourrés de produits chimiques, ce genre de choses, je ne vois pas l'intérêt d'aller les prendre. Là, je vois de plus en plus de gens de mon entourage qui, avant, n'allaient pas dans les magasins de déstockage et qui vont de plus en plus pour s'alimenter.
Et vous veillez toujours à la qualité de votre alimentation, si ce n'est pas trop indiscret, Kérima? Ça reste quand même important, oui.
Ça reste important et ça a un coût. Donc, je me mets à la place des gens qui ont des enfants et qui, je pense que pour eux, ça doit être trois fois plus difficile.
Merci beaucoup, Kérima, d'avoir témoigné au micro d'Europe 1 ce soir. Merci d'avoir appelé le 39-21. On l'entend, Guylaine Brouhan, c'est une réalité pour les Français. Ouais. Alors, Kérima nous appelle en plus en région parisienne, où les prix sont parfois plus élevés que dans le reste de la France. On le rappelle, le chiffre de l'inflation sur les seuls produits alimentaires, 13,2%.
Oui, c'est ça. Et puis peut-être aussi réapprendre à faire de la cuisine. Parce que c'est vrai qu'on est tous débordés, tout le monde court. Mmh. Et justement, on achète des produits transformés qui ne sont pas sains. Réapprendre à faire la cuisine, et c'est quelque chose de tout simple, mais il faudrait.
Alors, Stéphane nous appelle également au 39-21. Stéphane, dans la région de Toulouse, je crois. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous.
Alors, racontez-nous.
Alors effectivement, je dirais, cette inflation qui est forte fait que, moi je dirais à la maison, on transforme nos habitudes. Je prenais le cas en fait, moi région toulousaine, je suis en zone rurale. J'ai la chance d'avoir un boucher à battant qui propose des prix avec un rapport qualité qui est très intéressant, mais il y a une inflation. Et donc je prends un produit assez entrecuisse de dinde, assez, je dirais essentiellement de la chair assez proche de celle du poulet et de la volaille. Mmh. Le prix était à 7,80 il y a à peu près un an et demi. Là, c'est passé à 11 euros le kilo. Donc, ah ouais. Vous voyez. Donc, alors après, c'est pas très cher. La viande à 11 euros, je dirais, c'est.
Non, mais
c'est
la différence est importante.
Voilà, la différence est importante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dirais, la préparation, ça c'est simple. Dans une petite cocotte, une demi-échalote, cuisson à feu doux sur 2 heures. Et c'est excellent. Et derrière, ben, je dirais, l'autre technique aussi, c'est s'il y a du surplus. Je veux dire, on le met au congélateur, on le conserve et on s'en sert pour le plat suivant. Donc voilà les mesures, les astuces que nous trouvons, je dirais, pour maîtriser tout ça et avec des doses qui sont effectivement très conséquentes.
Et vous n'allez pas au supermarché, si vous y allez, mais un peu moins souvent. Et quand vous y allez, le caddie est moins rempli, peut-être, vous le voyez
Alors oui, mais alors, mauvaise surprise, je suis allé sur un grand réseau de distribution. Même les sacs plastiques, je pense, ils ont réduit la taille. Vous voyez, c'est les petits éléments, ce qu'on appelle en anglais la shrinkflation, c'est-à-dire qu'on réduit les quantités et ça, on s'en aperçoit aussi. Donc, la deuxième astuce, je fais partie des gens qui passent un petit peu plus de temps dans le rayon des produits avec des dates très courtes pour la consommation. Voilà.
Ah oui. Alors, vous faites attention quand même à manger des produits de qualité. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps à ce que disait votre intervenante, à les transformer en fait. Voilà. Donc on reste moins scotché sur les écrans, c'est peut-être pas plus mal.
Ouais. Voilà. Bon, mais merci en tout cas Stéphane de nous avoir donné quelques astuces ce soir sur Europe 1. Guylaine Brouhan, la loi Egalim, je voulais qu'on parle de cette loi Egalim, ce qui vise à proposer aux producteurs comme aux consommateurs le plus juste prix. Est-ce qu'elle est adaptée selon vous à ces chocs inflationnistes comme on en vit un actuellement?
Alors, il faut pour contenir l'inflation, préserver le pouvoir d'achat des ménages. C'est ça, c'est ça qu'il faut voir. Cette loi entre les producteurs et les distributeurs, parfois fausse la donne. Donc, moi, je dirais plutôt aux consommateurs, allez acheter des produits. Alors, bien sûr, c'est pas sur Paris, mais dans le milieu rural, allez acheter des produits directement aux producteurs. Et ça ne passera pas par les grands distributeurs. Ça sera moins cher et ça sera des produits. En plus, pour le développement durable, c'est très, très bien. Voilà, je pense qu'il faut un petit peu squeezer à côté ça. Voilà.
Et puis, il faut être honnête aussi, le dire à tous nos auditeurs, Guylaine Brouhan, l'inflation ne devrait pas ralentir d'aussitôt. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, le confiait dans la presse dominicale le week-end dernier. Le pic est attendu pour le milieu de l'année. Ouais. Et puis, le 1er mars prochain, les négociations entre industriels et distributeurs auront abouti. Vous espérez peut-être quelque chose d'ici là parce qu'il y a aussi les agriculteurs qui grondent face à tous ces gestes commerciaux qui se multiplient.
C'est pour ça que je parlais des agriculteurs, des producteurs locaux. Il faut vraiment être...
Il faut
aller à la source. Il faut essayer de... Et puis, il y a peut-être aussi... depuis un petit moment, nous, à Famille Rurale, on demande une aide pour les personnes qui sont en grande précarité. Une aide pour bien s'alimenter. Alors, ce que nous demandons, c'est 65 euros par famille qui est sous le seuil de pauvreté. Bon, c'est vrai que ça fait un montant, encore une fois, mais ces chèques permettraient d'acheter que des produits de bonne qualité, que des produits qui sont dans le PNNS. Et là, on verrait peut-être une transformation de la façon de s'alimenter et pour permettre à tous de pouvoir bien manger, quoi.
Et on rappelle que le gouvernement avait réfléchi un temps à un chèque alimentaire de 100 euros qui n'a jamais vu le jour.
Exactement.
Merci beaucoup Guylaine Brouhan. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Famille Rurale. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour intervenir ce soir sur Europe 1. Dans quelques instants, nous nous posons cette question. Le rapport au travail a-t-il évolué ou changé en France? Venez réagir, intervenir sur notre antenne. Appelez-nous au 3921, le standard d'Europe 1. Franck Morel, expert sur les questions de travail et d'emploi à l'Institut Montaigne, sera avec nous. C'est dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir.
Dans quelques instants, nous nous interrogeons sur notre rapport au travail en plein débat sur la réforme des retraites. Nous serons avec Franck Morel de l'Institut Montaigne. Venez réagir, intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Appelez-nous au 3921. Le standard est ouvert. À tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Dans mon salon de coiffure, les factures grimpent vite. Entre le chauffage, les sèche-cheveux et tout le reste. Grâce à Baisse les Watts, j'ai pu comprendre et réduire ma consommation d'énergie.
TPE PME, réduisez votre consommation d'énergie avec Baisse les Watts. Profitez d'un accompagnement personnalisé, d'un carnet de bord en ligne et de formation. Baisse les Watts, un programme gratuit proposé par La Poste et ses partenaires, soutenu par les certificats d'économie d'énergie. Un dispositif du ministère de la Transition énergétique. Inscrivez-vous sur baisseleswatts.fr.
Le Grand Prix Paris Match du photoreportage étudiant 2023 avec la Fondation Pure Essentielle inaugure sa 20e édition. Une année anniversaire. Plus de chances de gagner avec le prix spécial 20 ans. Photographiez les bons gestes pour la planète. Inspiré par l'ouvrage d'Isabelle Pacchioni, Aromathérapia, le livre des huiles essentielles. Ou encore avec le prix Google de l'image, Regard sur la citoyenneté. Rendez-vous sur grandprix.parismatch.com ou sur pureessentiel.com.
Vous êtes dirigeant d'entreprise. Vous cherchez des bons commerciaux. Uptoo est le leader français du recrutement de commerciaux. Les bons commerciaux sont rares. Uptoo les trouve et vous aide à les recruter partout en France. Recruteurs et commerciaux, rendez-vous sur uptoo.fr. UPTOO.fr.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé.
Le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Cette phrase signée Voltaire dans Candide est-elle toujours d'actualité dans la France de 2023? Car c'est un débat qui s'est immiscé en pleine bataille des retraites. Quel rapport avons-nous avec le travail? Certains élus font l'éloge du droit à la paresse. L'écologiste Sandrine Rousseau pour la cité. D'autres, comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, assurent que la valeur travail est centrale pour beaucoup de Français, notamment dans les classes ouvrières. Nous en parlons avec vous au 3921, le standard d'Europe 1, et avec Franck Morel, expert sur les questions de travail et d'emploi à l'Institut Montaigne. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre institut vient justement de publier une longue étude qui ne devrait pas aller trop dans le sens de certains responsables politiques qui défendent, je le disais à l'instant, le droit à la paresse, estimant que le rapport au travail a changé, qu'il n'est plus une priorité. Dans votre étude, on apprend que 77% des Français sont en fait satisfaits de leur travail.
Absolument. C'est un élément saillant de l'étude qui ressort, c'est que nos concitoyens ont un regard sur leur travail qui, globalement, est assez positif. Ce qui est d'ailleurs un motif de perplexité quand on le compare, par exemple, à la relation de nos concitoyens à la réforme des retraites, puisque dans le même temps, tout un chacun affirme que son rapport au travail est plutôt positif et qu'ils sont satisfaits de leur travail en général. Et en même temps, quand on leur demande s'ils veulent travailler plus longtemps sur leur vie, une majorité d'entre eux répondent négativement. Donc ça fait partie effectivement des contradictions de nos concitoyens et des mystères qui ressortent notamment de cette étude.
Franck Morel, ça veut dire que derrière la question des retraites, du décalage de l'âge légal de départ, en fait, il y a d'autres problématiques?
Oui, alors il y a plusieurs choses en fait qui ressortent dans le rapport au travail. Il y a la question du sens, qui est un point qui est de plus en plus important, notamment pour les jeunes générations, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que le travail que l'on accomplit soit un travail qui a une réelle utilité, qui a un sens, qui participe de son intégration dans la société. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fort, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, dans les politiques de recrutement des entreprises, est de plus en plus mis en avant. Il y a eu une loi il y a quelques années, la loi Pacte, qui mettait en avant la raison d'être des entreprises, et c'est quelque chose que les entreprises... sur lesquels les entreprises communiquent de plus en plus souvent dans leur politique d'image, ce qu'on appelle l'image employeur et de recruteur.
Alors ça, ce n'est pas dû non plus à une tertiarisation du marché de l'emploi. On ne travaille plus dans les mêmes secteurs aujourd'hui. Globalement, on est quasiment tout le temps dans le tertiaire.
Alors, le tertiaire est évidemment extrêmement dominant. C'est quelque chose qui a évolué au fil des années et qui s'est accru encore, et puis qui va continuer. Ce mouvement va continuer, d'ailleurs, ce qui n'est pas sans poser des problématiques de ce qu'on appelait, de ce qu'un économiste, Schumpeter, hein, avait appelé la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on va créer des emplois très qualifiés et on va détruire des emplois peu qualifiés. Et donc, toute la question est de savoir comment on va être capable d'affronter cette mutation, notamment par la formation professionnelle. Et puis, il y a enfin un point, et c'est ce qui fait le lien avec la semaine de 4 jours, c'est un attachement extrêmement fort de nos concitoyens qui est de longue date quand même, mais qui prend un relief très important aussi et qui est générationnel beaucoup. C'est la question de l'attachement à un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est également le fait de trouver la bonne martingale entre l'autonomie et les garanties, c'est-à-dire bénéficier d'un certain niveau de liberté dans l'organisation de son temps, dans l'organisation de sa vie, et en même temps avoir un certain nombre de garanties sociales. Et donc trouver le bon dosage, c'est quelque chose qui se manifeste notamment avec la diversification des formes d'emploi et des formes d'activité. Vous avez eu une explosion depuis la création du statut d'auto-entrepreneur en 2008, une explosion du nombre d'auto-entrepreneurs. Mais vous avez aussi les plateformes de travailleurs indépendants, le portage salarial, sans parler des diverses gammes de couleurs, on va dire, dans l'autonomie au sein du travail salarié. Donc tout ça, c'est la manifestation de cette recherche d'équilibre toujours en mutation, hein, entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Voilà, un désir de plus de liberté, c'est ce que croit également identifier le gouvernement. Hein. Vous parliez de la semaine de 4 jours, ça va être expérimenté pendant un an à l'URSSAF de Picardie. Ça a été annoncé dans le journal L'Opinion ces derniers jours par le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal.
Oui, alors effectivement...
Alors, 4 jours, je précise, excusez-moi Franck Morel, oui, excusez-moi, je voulais apporter une toute petite précision, c'est une semaine de 4 jours, travailler 36 heures, hein. Voilà.
Oui, effectivement, c'est un point important à apporter comme précision, il ne s'agit pas d'une réouverture du débat sur la réduction du temps de travail, hein, qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, il s'agit d'une répartition du temps travaillé à temps équivalent sur un nombre de jours dans la semaine plus faible. C'est ça ce qu'on appelle communément la semaine de 4 jours en ce moment. Alors, c'est quelque chose qui est d'ailleurs pour souvent mis en avant en termes de politique de recrutement. Hein, on voit, on peut croiser parfois des affiches, hein, notamment dans des secteurs en tension, comme par exemple la restauration. Vous avez des offres d'emploi qui vantent la répartition du temps de travail sur 4 jours, et donc permettant aux salariés qui occuperaient cet emploi de bénéficier d'un jour de liberté de plus dans la semaine. Juridiquement, mettre en place une semaine de 4 jours, c'est quelque chose d'assez simple, parce que il n'y a pas besoin forcément d'un formalisme excessif. Hein. Il suffit soit d'en passer par un accord collectif, soit d'en passer par une consultation, une simple consultation des représentants du personnel, s'il y a des représentants du personnel. Et c'est dans ce cadre que va être déterminée les modalités d'organisation de la semaine de 4 jours. Alors, il y a quelques points de vigilance, bien évidemment, et notamment le fait que répartir la durée du travail hebdomadaire sur un nombre de jours plus faible, eh bien, ça veut dire des journées de travail plus longues. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans l'organisation du temps. Mais c'est effectivement une pratique qui est intéressante, qui se développe de plus en plus. Alors, toutes les organisations ne s'y prêtent pas. Il faut être capable de pouvoir répartir les différentes équipes, les différents salariés sur 4 jours qui peuvent être des jours différents en fonction des équipes et en fonction des salariés. Mais effectivement, on a beaucoup de questions autour de ça. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est intéressant. Moi, je pense que une clé du succès de ce type d'organisation, c'est véritablement d'en faire un objet de dialogue social dans l'entreprise, c'est-à-dire de ne pas occulter les changements collatéraux qui sont induits par la mise en place de cette nouvelle organisation, dont j'ai mis en avant un certain nombre d'aspects, hein, par exemple l'allongement de la durée quotidienne de travail. Mais dès lors que l'on prend bien en considération tout ça, que l'on en profite le cas échéant même pour remettre à plat l'organisation du temps de travail. Est-ce qu'on va avoir des horaires individualisés? Est-ce que ça sera des horaires fixes? Est-ce qu'on va passer à un système pour une partie du personnel de forfait en jour? Est-ce qu'il y a une dose de télétravail dans l'équation? Toutes ces questions-là peuvent être posées à l'occasion de la mise en place d'une organisation du temps de travail sur un nombre de jours plus faible dans la semaine.
La pratique du télétravail, hein, dont vous parliez, qui a pris 33% d'augmentation par rapport à 2015 pour au moins un jour de travail à domicile par semaine. Alors, le sujet de la semaine de 4 jours, hein, en l'abordant, on voit une rupture, elle est générationnelle. Patrice nous appelle au 3921, le standard d'Europe 1. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
La semaine de 4 jours, vous, ça vous paraît complètement fou, hein ?
Bah écoutez, bon, on m'a interrogé un petit peu pour savoir ce que je faisais. Alors bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc, je rapidement fais un cursus de sa vie rapide. actuellement, j'ai 75 ans et je travaille encore pour une entreprise avec plaisir. Je suis commercial. Je l'ai été pendant 32 ans dans une grosse société. Je le suis depuis 17 dans une plus petite. Mais j'ai moins d'heures de... J'ai moins de distance. J'ai un peu plus de temps de libre. Mais vous voyez, je continue à le faire avec plaisir.
Est-ce que je peux vous poser une petite question, Patrice ?
Oui.
Pourquoi continuez-vous de travailler ? C'est important pour vous ?
Alors, je continue de travailler parce que j'ai accepté un licenciement économique dans une entreprise importante, que je ne citerai pas, mais où j'étais très heureux. Puis un jour, on m'a proposé quelque chose, de partir. Bon, je l'ai pris en me disant, bon, un peu jeune, 54 ans, donc j'ai rebondi. En me mettant à mon compte, c'est pour ça que quand vous parlez des auto-entrepreneurs, ça n'existait pas il y a 20 ans, mais je me suis mis à mon compte. J'ai galéré. Là, j'ai eu des misères, j'ai perdu pas mal de sous, et donc je me sentais encore capable de faire autre chose, donc j'ai eu la chance de trouver sur une entreprise qui m'a embauché. Je travaille avec eux depuis 17 ans. Donc, si vous voulez, pour résumer, une vie avec service militaire. Donc, je pense que le service militaire vous donne la possibilité de réfléchir. Hein, déjà, un an, moi j'ai fait un peu plus, mais c'est pas grave. Ça donne le temps. Quand vous sortez, vous commencez à vous dire, tiens, ça me plairait. Vous engagez dans une entreprise. Moi, j'ai commencé comme manœuvre dans une entreprise et j'ai terminé
Patrice,
avec.
La semaine de 4 jours, dites-nous juste que ça vous
inspire. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, parce que quand il y a eu les 35 heures, qui étaient pour moi une catastrophe. Hein. Alors, l'hôpital, je ne vais pas en parler, parce que je ne suis pas dans ce milieu-là, mais j'en entends aussi parler. Mais moi, dans une entreprise importante, les représentants, on a demandé qu'est-ce qu'ils font ? Combien de jours ? Moi, je faisais jusqu'à à peu près 75 heures par jour. Non, 75 heures par semaine, oui. Si vous voulez, y compris le travail que je faisais chez moi, etc. J'étais salarié, j'avais des commissions, et tout ça, c'est un poste qui était bénéfique. Donc, je veux dire, quand on venait m'inspecter pour savoir comment un représentant travaillait, et le ramener à 35 heures, ça a été une aberration. La même société, 10 ans après, elle gardait les gens jusqu'à 65 ans. J'ai même des collègues que j'ai revus après, qui sont partis à 69 ans. Alors que moi, à 54 ans, on me faisait comprendre que, bon, à la limite, on se débrouillerait sans moi. Mmh. Voilà, donc si vous voulez, quand je vois ça, et que je vois la catastrophe que ça a été au niveau des entreprises, pour les commerces qui attendaient des représentants qui ne venaient jamais, enfin, qui c'est pas ce que je veux dire, mais qui venaient beaucoup moins souvent, parce qu'on leur réduisait leur temps de travail, alors qu'un représentant qui a envie de travailler le vendredi, le samedi et même le dimanche, pourquoi pas ? C'est ce que j'ai connu. C'est ça qui vous fait aimer. C'est ça qui vous fait aimer le travail, si vous voulez.
Merci en tout cas, Patrice, d'avoir témoigné de votre amour du travail sur l'antenne
si vous voulez.
Merci également. Excusez-nous, on doit rendre l'antenne. Merci également à Franck Morel, hein, expert sur les questions de travail et d'emploi à l'Institut Montaigne, de nous avoir donné plus de détails sur l'étude publiée aujourd'hui. Restez avec nous dans quelques instants. Retour de l'info sur Europe 1.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.